Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Alternante FM 98.1 Nantes, 91 du côté de Saint-Nazaire. Vous êtes à l'écoute de Plan Large qui a aujourd'hui deux invités, un, excusez-moi, un qui est un petit peu loin, Roséane Fernandez. Roséane, tu m'entends?
Oui, je t'entends très bien.
Bonjour Roséane. Roséane, tu es un des responsables du festival du film espagnol, 24e cette année.
Et pardon?
24e festival cette année, c'est ça?
Oui, tout à fait,
voilà.
24e. Oui, on est tout près de la 25e édition, c'est-à-dire qu'on va fêter presque un quart de siècle, n'est-ce pas, l'année prochaine.
D'accord.
Mais oui, 24e édition. L'année dernière, 27 000 spectateurs. Je pense que cette année... c'est un grand défi, ce que nous avons devant.
On verra ça un petit peu avec la programmation. Et puis également Serge Fourcher. Bonjour Serge.
Bonjour.
Alors, je vais dire à tout le monde, je vais tutoyer mes interlocuteurs que je connais très bien. Je ne vais pas faire mine de ne pas les connaître parce que autrement, ça va être un peu bizarre. Serge, toi, tu nous viens pour l'association Polyglotte qui, cette année, représente encore son festival. Alors là, on en est en combien là?
Nous, on est qu'au 11e.
On est qu'au 11e. 11e festival Polyglotte. C'est organisé par une association qui est sur Nort-sur-Erdre. Et donc, l'année dernière, il y a eu la même rencontre entre toi et Roséane.
Exactement, oui.
Ouais.
Bonsoir, Roséane.
Il faudra peut-être que je vous présente peut-être en live un jour, hein, quand même, tous les deux.
Ah, bien sûr, bien sûr.
Carrément.
Donc, on va peut-être commencer. Vous pouvez vous interpeller, hein, bien entendu. Hein, parce que y a une chose qui est assez amusante, finalement, c'est que dans vos deux festivals de taille complètement différente...
Tout à fait.
Parce que le festival Polyglotte, c'est une dizaine de films, à peine.
Oh, à peine, à peine.
À peine une dizaine de films.
Et beaucoup d'animations,
j'en parlais
tout à l'heure.
Et c'est là le point commun avec le 24e festival du film espagnol, puisque pendant le festival espagnol, il y a aussi beaucoup de choses autour du cinéma, mais aussi autour de la culture espagnole. Donc je crois qu'il y a quand même une manière, je dirais, d'appréhender les choses, de voir les choses qui vous sont communes, je pense.
Ah, tout à fait, tout à fait. Vous savez qu'à Polyglotte, on est multilingue. Hein. Comment on s'appelle Polyglotte, c'est un peu normal. Il se trouve que l'association est autour d'un centre de langue qui enseigne l'anglais, l'espagnol, l'italien, le breton et l'allemand. Et l'idée dès le départ, c'était de proposer des animations et des films en VO autour des langues qu'on enseigne au centre Polyglotte, qui donc, comme tu le rappelais tout à l'heure, est basé à Nort-sur-Erdre.
Et donc, on est sur de la... Même que vous êtes à Nort-sur-Erdre, c'est déjà, on va dire, de la décentralisation par rapport à ce qu'on a l'habitude de parler ici.
Tout à fait.
Qui est à Nantes. Mais en plus, vous redécentralisez, puisqu'il y a aussi Eric qui présentera des... pas Eric le prénom, mais la ville d'Eric et le cinéma d'Eric, qui présentera un certain nombre de films dans le cadre de ce 11e festival.
Ah voilà, c'est ça même. Il se trouve que l'association, donc, est une association intercommunale, donc basée à Nort-sur-Erdre depuis 22 ans maintenant. Mais par contre, le festival donc n'est pas uniquement concentré sur la commune de Nort-sur-Erdre, mais par contre sur trois communes, sur Éric, pas Notre-Dame-des-Landes, hein, même si on est sur la même communauté de communes, Nort-sur-Erdre et Les Touches, Éric, Nort-sur-Erdre et Les Touches. Avec donc les deux cinémas de la communauté de communes, à savoir le Paradiso donc à Nort-sur-Erdre, et le générique à Éric qui nous aide hein, depuis le début à diffuser donc des films en VO pendant sur une période un petit peu courte, pas courte, nous ça dure 3 semaines, hein, ça va avoir 3 week-ends, du 28 mars au 12 avril.
Donc, alors que le festival espagnol, on est en partie en commun, des dates en commune, non?
Oui, nous on va commencer les 3 avril et on ira jusqu'au 13 pour la clôture, et je pense qu'il y aura, on reprend les films primés le 14 et le 15.
Voilà. Mais vous êtes en concurrence alors?
Je ne sais pas, en concurrence ou peut-être complémentaire.
Oui, c'est ça, je dirais plutôt complémentaire.
et moi, j'ai quelque chose à dire, comme pour Polyglotte, je dirais aussi que l'État espagnol est un pays polyglotte aussi, puisqu'on parle espagnol, bien évidemment, mais aussi catalan, galicien et basque. Et je pense que la programmation du festival reflète tout ça très bien tous les ans.
Oui, c'est vrai que finalement, les hispanophones, des très bons hispanophones, s'ils se disent « je peux y aller les mains dans les poches sans avoir à regarder les sous-titres », c'est faux, parce que quand le festival passe un film en basque, il est en basque, il est...
Absolument.
Voilà.
Oui, et même par exemple, cette année, parmi les films en compétition, il y aura deux films en catalan. Hein, Nous voulons tous le meilleur pour elle, le film d'une jeune réalisatrice catalane qu'on connaît à Nantes, puisqu'elle était venue présenter son premier film, hein, Marcol, et un autre film, La peur, de Jordi Cadena, qui est aussi en catalan. Et en plus, un troisième qui a été tourné en partie en galicien, Les Phénomènes, qui fait partie de la compétition aussi. Donc, nous voulons absolument éviter les clichés, les stéréotypes, etc. sur l'Espagne. Je pense que ça fait très longtemps qu'on fuit un peu les stéréotypes sur l'Espagne et on fait des efforts pour montrer une Espagne véritablement plurielle et réelle, puisque voilà, en Catalogne, au Pays Basque ou en Galice, on parle toutes ces trois langues-là.
Mmh. C'est intéressant du coup de se retrouver comme ça, on voit que c'est aussi tout autour de tout ce que cette problématique des langues minoritaires. Alors je sais pas si en fait en Espagne, d'ailleurs petite parenthèse, ces trois langues en dehors du castillan, est-ce qu'elles sont considérées comme des langues dites minoritaires au sens de l'Europe, ou est-ce que sont des langues officielles? Alors, comme vous avez un système beaucoup plus fédéral, elles sont peut-être des langues officielles dans chacun des...
Oui, absolument. Non, absolument. Bon, vous savez bien que je vous parle du Pays Basque, où la langue basque est absolument langue officielle au Pays Basque, bien sûr. C'est le cas aussi de la Catalogne, et non seulement le catalan est une langue officielle en Catalogne, mais elle est largement, parfois majoritaire. Pour la population. Donc là, il y a une vérité, je dirais, indiscutable. Et pour le cas de la Galice, c'est un peu la même chose aussi. C'est une langue, bien évidemment, officielle en Galice, et largement et très, très répandue pour les Galiciens qui parlent galicien dans un très grand nombre. Je ne connais pas exactement les pourcentages, on dirait, mais en tout cas, c'est une langue très, très, très parlée.
Serge, de polyglotte, ça fait rêver, ça, non?
Ah, tout à fait. Bon, nous, c'est vrai que cette année, on est plus orienté sur l'Amérique du Sud. C'est vrai que le film qu'on va passer donc en espagnol, El Chino, c'est un film argentin, donc on va passer à Eric au mois d'avril, le 5 avril.
Mais il y a eu un Goya.
Voilà, bien sûr, oui, qui a eu quand même le Goya du meilleur film en 2012, du meilleur film hispano-américain.
J'ai vu le film, c'est un film avec Ricardo Darín, n'est-ce pas?
Voilà, c'est ça,
l'acteur.
Et donc concernant l'Amérique du Sud, on va également avoir une exposition donc à la Bibliothèque des Touches, là sur le Nicaragua, puisque cette année donc on va fêter les 25 ans de l'association Solidarité et Échange 44, qui organise quelque chose tous les ans à Trefieux, la fête de la solidarité. Et donc pour leurs 25 ans, ils vont venir exposer donc des photos et puis les différents projets qu'ils ont, tant en matière éducative, des projets éducatifs, ainsi que l'aide qu'ils essaient d'apporter à la création de coopératives avec des agriculteurs donc du Nicaragua. Et la soirée de clôture, là on aura de la musique festive, de la musique bolivienne, avec un groupe nantais, qui est composé de 5 musiciens d'origine bolivienne, bolivien d'ailleurs, pas forcément uniquement d'origine bolivienne, qui s'appelle Los Faros.
Ça veut dire quoi?
C'est les phares.
Les phares. Les phares, comme les phares pour diriger les bateaux?
Ah oui, je pense, oui.
D'accord.
Voilà.
Tout à fait. Je confirme.
Parfait. Merci. Donc voilà, nous cette année, on est plus, on essaye d'aller un petit peu plus loin que ce qu'on a fait d'habitude. L'année dernière, on était beaucoup plus autour de l'Europe. Et là, cette année, donc, on est en Amérique du Sud. On est pour d'autres films, entre autres les films anglais.
Il y a le continent indien et au-dessus de l'Inde qui est quand même bien présent aussi.
Voilà, effectivement, puisque donc on va voir deux films en anglais, l'un au Paradiso de Nord-sur-Erdre et l'autre au générique, pour pas faire de jaloux. Donc le premier, donc c'est pas forcément des films tout récents, puisqu'il s'agit de Indian Palace, donc est un film de 2012, qui avait eu aussi pas mal de, moins de nominations, hein, si ce n'est de prix, avec des grands acteurs anglais qui sont Judi Dench, Maggie Smith, John Wilkinson. Sur quelque chose, ce qui est assez intéressant d'ailleurs, enfin, comme souvent dans le cinéma anglais, à savoir une base sociale au départ, à savoir donc des retraités qui ont un petit peu des difficultés à vivre en Grande-Bretagne, vu leur situation économique et vu la, tout l'écart qui peut se creuser entre les différentes classes et les différentes couches de la population. Et donc tous ces retraités qui décident d'aller en Inde en se disant que dans un pays à bas coût, ils vont peut-être un petit peu mieux s'en sortir, et puis il y a peut-être un peu plus de soleil aussi en Inde. Et donc c'est une très, très jolie comédie. Et l'autre film donc est un film là, très récent, hein, puisqu'il est sorti, je pense, qu'au mois de décembre, novembre-décembre en France.
Il s'agit de présenté à l'ouverture du Festival des Trois Continents.
Exactement, voilà, de Lunchbox, qui est vraiment un très très joli film. Moi, je suis tombé un peu amoureux de ce film. Et donc, c'est intéressant de montrer l'Inde autrement que par les films Bollywood, avec une très jolie histoire. Quoi.
C'est une histoire sur la possibilité de saisir des occasions et le libre arbitre, je dirais. C'est qu'à un moment donné, dans ce film, d'une part, on voit la vie quotidienne de travailleurs à qui leur femme ou éventuellement des restaurants envoient le midi une boîte pour manger.
Le plateau repas.
Ouais. Voilà. Et il y a un quiproquo, à un moment donné, la boîte que prépare la jeune femme pour son mari, avec des belles petites choses que sa voisine lui dit de faire, il revient, il dit rien du tout, mais c'est quelqu'un d'autre qui en profite. Et voilà, il y a toute une histoire après. Et je dirais que c'est au-delà de cette histoire qui nous permet de découvrir quelque chose, comment ça se passe en Inde, des travailleurs, c'est aussi assez universel dans le sens que c'est un film sur le libre arbitre. Qu'est-ce qu'à un moment donné, à partir d'une occasion qui se présente, quel choix les personnes vont pouvoir faire et quel choix elles peuvent avoir entre leur envie et leurs possibilités.
Ah oui, tout à fait, oui.
Et ça, j'ai beaucoup aimé ce film, j'ai un peu tombé amoureux de ce film.
Moi, je sais que ce qui m'a aussi beaucoup plu, c'est ces deux personnes que tout sépare, d'une façon. Donc, l'un qui est presque à la retraite, qu'on sent un petit peu fatigué, aigri, qui va retrouver un petit peu goût à la vie, avec justement donc ces plats qui lui sont envoyés de façon complètement inopportune. Il ne s'attend pas du tout à recevoir ça. Et cet échange épistolaire, justement, à travers justement une petite boîte. Et même chose, donc la jeune femme qui, elle, est un petit peu aigrie aussi, puisque son couple bat plutôt de l'aile, elle reprend un petit peu goût à la vie avec cet échange. Et ça, c'est quelque chose qui est très très bien filmé, c'est très très beau. On voit vraiment
beaucoup de pudeur et de l'humour aussi en même temps.
Et exactement, oui, là, j'étais également donc à l'ouverture des Trois Continents, là. Même si c'est pas, je pense, un film qui se veut être une comédie au départ, il y a quand même beaucoup d'humour.
Est-ce que tu l'avais vu, Roséane? Toi, t'as eu l'occasion, non?
Non, j'ai pas vu de Lunchbox, mais ça a l'air intéressant, d'après ce que vous dites.
Oui, c'est vrai, c'est vraiment un très très beau film. Alors, je disais, on reste pratiquement sur le continent indien, il y a pas mal de choses qui se passent au-dessus du continent indien. Alors, je dis continent indien parce que je pensais au Ladakh, qui est le petit Tibet, et on va encore un petit peu plus haut. Et on va sur le plateau du Tibet, puisqu'il y a un certain nombre de films et d'animations qui sont faites autour du Tibet.
Voilà, tout à fait, oui.
Alors, en même temps, il y aura donc la date anniversaire de l'invention du Tibet qui sera au cœur de votre festival.
Exactement. Voilà, c'est pas non plus complètement par hasard. Il se trouve qu'il y a aussi tout près de nous, là, tout près de Nantes, dans la région angevine, une famille, la famille No, qui a l'habitude de partir un petit peu partout dans le monde, en famille, et qui, en 2009... a effectué un voyage donc de 6 mois, donc 3 mois au Népal, 2 mois en Mongolie, 15 jours en Chine, 15 jours en Russie et retour par le Transsibérien. Tout ça, donc le papa, la maman et les deux enfants âgés de 9 ans et 12 ans à l'époque, et qui ont fait un livre depuis. Je dis bien sûr, parce que c'est souvent ce qui se passe, hein, pour les grands voyageurs, il faut bien financer tout ça, et qui vont nous présenter une exposition qui va avoir lieu pendant toute la durée du festival, là, du 28 mars au 11 avril, donc à la Maison de l'Emploi donc de Nord-sur-Erdre. Et Madame Toulon donc viendra faire une conférence donc le 11 avril, juste avant de désinstaller son exposition, et nous fera partager un petit peu leur voyage.
Il y a un documentaire aussi, et sur le sentier interdit.
Voilà, il se trouve que donc au plein milieu du festival, là, donc le 3, 5 et 6, on fait un petit focus sur le Tibet avec un documentaire qui s'appelle Le Sentier Interdit, donc qui raconte l'histoire de ben, d'un père qui est un petit peu amené et obligé à sortir ses enfants du Tibet pour que ses enfants soient éduqués, puisque vu la politique chinoise avec un enfant, ben, donc, il n'y en a qu'un qui va à l'école. Et lui, il a plusieurs enfants.
Et en plus en langue chinoise.
Et en plus en langue chinoise. Donc bien sûr, il veut maintenir à la fois la culture chinoise, la culture tibétaine, bien sûr, et puis faire en sorte que ses enfants aient accès à l'éducation. Donc ils doivent sortir du pays, donc par ce fameux sentier interdit où bien sûr on peut se faire tirer dessus par les Chinois, pour que ses enfants donc aient accès à une éducation. Donc d'abord au Népal, et puis après ils les envoient donc en Inde.
Tout à l'heure, on avait une discussion sur les langues. Rosiane, tu disais effectivement il y a plusieurs langues en fait en Espagne. Dans ces pays-là, on sait bien qu'au Tibet, on apprend en chinois. Mais dans la démocratie en dessous, l'Inde, qu'on dit la plus grande démocratie, dans le petit Tibet, le Ladakh, qui est donc une partie d'une des régions indiennes, capitale Leh, il y a une problématique aussi autour de la langue, puisque les enfants en fait, apprennent en hindi. Et toute leur culture, qui est vraiment une culture très particulière et par rapport au reste de l'Inde, qui est une culture tournée vers le Tibet, avec une philosophie bouddhiste, avec une langue, le ladaki, qui est beaucoup plus proche du tibétain, eh bien, ils ont du mal à pouvoir le faire, ou alors ils sont dans des écoles privées, et donc il faut les financer. Donc on voit que toujours cette problématique de langue dont on a parlé tout à l'heure, elle peut recouvrir plein de choses et des problématiques sociales aussi qu'on retrouve.
Bon, et c'est vrai que ça, c'est complètement au cœur donc de la démarche de l'association Polyglotte, de réfléchir autour des langues. Et bien sûr, les langues que nous on enseigne, les langues que les gens parlent éventuellement quand ils voyagent. Et l'idée, quand on voyage, bah, c'est de découvrir l'autre, découvrir la richesse, donc et bien sûr les langues. Donc, concernant le petit focus sur le Tibet, on va également avoir, donc je parlais du sentier interdit qui sera le 3 avril, donc à 20h30 au générique, à Eric. Et puis donc le 5 et le 6, on va avoir une exposition de photos sur le Tibet, qu'on a baptisé Couleurs du Tibet, avec un moine tibétain qui va venir faire un peu de calligraphie et qui va réaliser un mandala pendant le week-end.
Des choses très intéressantes. Alors, pour les gens, il y a encore d'autres choses. Il y a deux films documentaires en breton. Il y a aussi une pièce de théâtre. Et il y a aussi un film italien, Viva la Libertà, dont on a parlé ici avec Gloria Paganini,
qui est passé
dans le festival de films italiens. Pour avoir plus de renseignements, il suffit d'aller sur le site de l'association www.centre-polyglotte.eu, bien entendu.
Voilà, tout à fait. Merci.
Un chef, je n'ai pas retrouvé mon disque, donc c'est toujours un film d'Eric Valli, mais c'est la piste et ça se passe aussi dans le désert. Mais bon, on est quand même dans les ambiances musicales qu'aime bien Eric Valli, musique de Armand Amar. Alors, Rosiane Fernandez du Festival du film espagnol, 24e cette année. On va parler un petit peu du festival, il nous reste une demi-heure pour en parler. Alors, il y a des classiques dans le festival, bien entendu, les sections, la section officielle, la section compétition documentaire, section premier film, court-métrage. Il y a la fenêtre basque aussi.
Oui.
Et puis, il y a des choses sur lesquelles je voudrais qu'on s'attarde un petit peu, parce que c'est nouveau, je trouve ça assez intéressant. Il y a un cycle filmé au féminin, où le féminin filmée. Alors, oui. Pourquoi cela? Alors, on sait qu'effectivement, en Espagne, le droit des femmes à avorter a été supprimé, et il y a eu des attaques par rapport à ces droits-là. Est-ce que c'est une réflexion par rapport à un recul des droits des femmes qui vous ont dit que ça serait bien d'avoir un regard là-dessus? Qu'est-ce qui vous a amené au niveau de l'équipe du Festival espagnol à faire cette section?
Bon, c'est une bonne question. Et je pense que par rapport au recul de droits des femmes, etc., enfin, ça fera sans doute partie du débat, etc., mais je pense que certainement il y a eu un recul. Et en tout cas, je pense qu'on s'est posé la question d'une façon beaucoup plus générale, c'est-à-dire que dans l'histoire du cinéma espagnol, il y a pas mal de réalisatrices qui sont très intéressantes, et on voulait parler d'elles, on voulait les inviter, on voulait avoir un débat avec elles, et c'est ce qu'on va faire d'ailleurs, des réalisatrices qui ont de très différentes origines et qui font un cinéma très pluriel aussi, mais en tout cas intéressant. Et je pense que quand on parle du féminin filmé, voilà, ça nous intéressait aussi le rôle de la femme dans le cinéma espagnol. Peut-être ce qui nous a donné l'idée, c'est un film de Diego Galán, ex-directeur du Festival de Saint-Sébastien et critique du cinéma pour El País, qui a tourné un film intitulé La Pata Quebrada, hein, qui parle de femmes dans l'histoire du cinéma espagnol, c'est-à-dire le rôle de la femme pendant le franquisme et au cinéma. C'est un film que nous avons traduit comme Retourne a tes fourneaux, hein, qu'on l'a pas taquebrada de Retourne a tes fourneaux, et un film qui est très intéressant parce que on est très curieux de voir les images de films franquistes qui parlaient des femmes, et en même temps, je pense, en tant qu'espagnol, je dirais, on a un peu honte, et je pense que ça va nous faire réfléchir, hein, et, sans doute. Et puis voilà, c'est un film en plus qui fera partie de la compétition documentaire, et le point de vue féminin, ou les points de vue en pluriel bien sûr, le point de vue féminin vont être aussi présents par rapport à deux expos qui seront présentes à Salle Cosmopolis pendant toute la durée du festival, en fait. Voilà, je pense un sujet très intéressant et très pluriel. Je pense qu'il y aura débat sans doute, parce que je ne sais pas s'il y a un point de vue féminin quand il s'agit de tourner un film. On va leur poser la question, on va en discuter. Le débat sera animé par le professeur de l'université de Dijon, Monsieur Larraz, et je pense que ça va être un très bon moment.
Oui, c'est intéressant comme question, parce que je sais que c'est une question qui a été posée aussi en France par rapport au cinéma pornographique, par exemple. Il y a eu des femmes qui ont filmé en disant ce qu'elles voulaient voir, le point de vue féminin, non pas que le point de vue masculin. J'ai eu l'occasion de voir certains, c'était des courts-métrages. Pour certains, effectivement, il y avait un point de vue complètement différent. D'autres, je voyais pas forcément les différences. Donc c'est vrai que la question peut largement être posée. Alors, ouais. Les expositions, il y a deux expositions, une vidéo, En Casa de Vanessa Rousselot, c'est ça?
Oui.
Et puis une exposition de sculpture, Chercher la femme.
Chercher la femme.
D'Alexandra,
voilà. Une exposition d'Almudena Armenta. Et je vais vous dire quelque chose. Je suis un peu le membre de l'équipe qui habite l'Espagne là maintenant. Donc c'est deux expos que mes collègues ont choisi, ont vu. Et à Paris, moi, j'ai pas encore vu ni l'une ni l'autre. Donc pour moi, ça va être une véritable surprise. Enfin, mes collègues m'ont parlé, m'ont plus ou moins décrit les deux expos. Je pense que ça va être très intéressant. Par exemple, Chercher la femme, c'est une exposition qui s'inspire d'un thème récurrent dans l'histoire, celui de la domination masculine, hein. Et c'est une exposition qui vise à faire tomber tous ces préjugés et à travers un ensemble de figures variées, femmes choristes, femmes au foyer, déesses ou maîtresses, une exposition qui prend le contre-pied de ces points de vue machistes et vante des valeurs telles que l'indépendance et la féminité, par exemple. Bon, je pense que ça sera un bon moment de se promener, peut-être après une projection, de se promener à l'espace Écureuil, exactement, du 3 au 13 avril, pour découvrir cette expo et des inventaires. Hein. Et dans le cas de la première exposition, c'est-à-dire Femmes sous suspicion, là, c'est une expo qu'on va retrouver à Cosmopolis. Pareil, du 3 au 13 avril, de 16h l'après-midi à 1h à Cosmopolis. Et pareil pour l'installation vidéo de Vanessa Russello, en Casa, qui met en scène des femmes latino-américaines qui travaillent comme employées des maisons dans des familles espagnoles.
Alors, je voulais reprendre, Roséane, sur quelque chose que tu as dit. Tu disais que tu avais honte pratiquement d'être espagnole. Mais quand je vois, je me rappelle, il y a quelques années, au festival, il y a eu un film qui a traité des femmes battues. Film extraordinaire qui était...
Te doy mis ojos, n'est-ce pas, ouais. Le film de Itziar Boyain.
Voilà, et qui était tout très bien, ce qui n'était pas du tout dans le voyeurisme ni rien du tout, et qui posait bien la problématique. J'attends qu'en France, il puisse y avoir ce genre de film. Plus le travail qui a été fait à un moment donné en Espagne, alors peut-être n'en a rien recul, justement sur cette problématique des femmes battues. Je n'ai pas forcément l'impression, on a tendance à dire que les Latins sont plus violents que d'autres.
Ah non, c'est
une idée reçue. Donc, c'est pour ça que je me dis, quand tu dis t'as honte en étant espagnol,
Oui, parce que c'est un documentaire, celui de Diego Galán, qui parle de films franquistes. Oui. C'est-à-dire, il cherche à analyser les rôles de la femme pendant la dictature franquiste. Et là, oui, on a un peu honte, puisque la dictature franquiste, surtout juste après la guerre, a réservé un rôle absolument secondaire à la femme.
Qui était incapable de créer, j'ai lu ça dans le programme, dans les informations qui étaient présentées avant les films, il y avait vraiment de la propagande en disant que les femmes n'étaient pas capables de faire quoi que ce soit.
Absolument, absolument. C'est pour ça que j'ai parlé de honte, là, d'une histoire plutôt, plutôt terrible, mais bien évidemment pendant une période qui n'était pas du tout démocratique en Espagne, 1939-1975.
Mais sous Pétain, je suis pas sûr que ça tutait mieux. On l'a eu moins longtemps, mais sous Pétain,
ouais, certainement. Ouais, là, il y aura débat aussi, hein. Certainement. Hein. Mais en tout cas, je suis d'accord. Quand tu parles du film d'Itziar Boyain, Te doy mis ojos, c'est-à-dire ne dis rien, hein, on a traduit ça comme ça, et c'est un film qui a eu beaucoup de prix et qui parle de femmes battues, etc., avec délicatesse en même temps. C'est pas un film de le bon et les méchants, etc. C'est un film très intelligent, et c'est comme ça que le film a été perçu en Espagne aussi. Hein.
Même vis-à-vis du rôle de l'homme,
absolument.
Qu'on n'arrive pas à totalement
à détester, n'est-ce pas? Ouais. Absolument, je suis tout à fait d'accord. Là, on va faire un clin d'œil français aussi, puisqu'on va programmer un court-métrage avant que de tout perdre de Xavier Legrand, un film qui a été produit par les fils de Costa Gavras, qui viendra présenter ses courts-métrages et qui aborde un peu la même problématique.
Bon, ben, donc ça mérite de pouvoir soulever un certain nombre de questionnements, ça risque d'être intéressant.
Alors... Oui, tout à fait. Oui, parce que le film du cycle féminin, il s'agit presque d'une quinzaine de films, hein, qu'on va programmer. Donc, par exemple, pour les femmes battues, etc., on peut regarder aussi Elisa Acad et Judith Collet et Jordi Cadena. On peut par exemple aborder le problème aussi de la prostitution avec Evelyne de Isabel de Ocampo. Il y aura quelques sujets historiques aussi par rapport à la femme, un documentaire qui a été récemment primé au Goya, les institutrices de la République, c'est-à-dire par exemple, on revient encore à un problème de la dictature franquiste, c'est-à-dire comment les institutrices de la République, c'est-à-dire entre 1931 et 1936, ont été punies juste après la guerre et absolument oubliées, etc. Elles ont beaucoup souffert et là c'est un documentaire qui nous parle de tout ça avec une émotion absolument hallucinante. Et enfin, je pense que qu'il va y avoir beaucoup de points de vue et surtout un débat avec toutes ces réalisatrices, dont Elena Taberna, Inés París, Isabel de Ocampo, Pilar Pérez Solano, Mireia Gabilondo. Enfin, on a invité beaucoup de réalisatrices qui sont en train de filmer en Espagne et je pense que ça va être un grand moment. Voilà.
Il y avait quelque chose qui était intéressant dans la présentation de cette section dans le programme, c'était comment éventuellement le cinéma peut être un indice d'un changement de société quelque part. Alors, en citant une scène d'un film dans lequel il y a Carmen Mora qui donne un grand coup d'os de jambon à son mec pour se débarrasser de lui. Et c'est un film d'Almodovar, je crois.
Oui, c'est « Qu'est-ce que je fais pour mériter cela ?»
Voilà.
Et, c'est le film de 1984.
Voilà, et il semblait dire voilà, que c'était une espèce de basculement, en disant bon, voilà, c'était vraiment la fin de l'époque où on voulait... il y avait encore peut-être des femmes encore âgées qui étaient dans cette forme de
soumission.
De soumission.
Voilà, ouais, tout à fait. Ouais, je suis d'accord, parce que sans doute Almodovar est important quand on parle du rôle de la femme dans le cinéma espagnol. Je pense qu'Almodovar a contribué à changer les points de vue, à briser quelques stéréotypes aussi. Et je pense qu'en effet, Monsieur Larraz, celui qui a rédigé l'article pour le programme, a tout à fait raison quand il parle de ces moments-là, du film « Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela ?» ou dans la scène où Gloria, interprétée par Carmen Mora, se libère de son mari en l'assommant avec un os de jambon. Là, peut-être, voilà, un moment symbolique où, voilà, il va y avoir quelque chose qui change. Deux ans après... la victoire électorale du Parti Socialiste 1982, c'est-à-dire un peu les débuts d'une véritable société démocratique, n'est-ce pas? Parce que entre 1975, mort de Franco, et 1982, bon, il y a eu une sorte de transition à la démocratie, très longue, compliquée, etc. Et finalement, en 82, victoire de Felipe González, etc. Et changement de pas mal de choses, non? Donc, Almodovar a très bien reflété tous ces genres de changements et a contribué sans doute à le faire.
Oui, il a contribué à d'autres choses, parce qu'évidemment, il a travaillé sur le genre, il a travaillé sur plein de choses comme ça.
Bien
dont
sûr.
On parle aujourd'hui, genre, film qu'il ne faudrait pas présenter à certaines personnes en France, ils en feraient une crise cardiaque. autre personnage important en dehors d'Almodovar, et peut-être, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on demanderait à des Français qui sont pas forcément au fait du cinéma espagnol complètement, de citer des réalisateurs espagnols. Bien évidemment, il y aurait Almodovar, Carlos Saura, mais il y aurait aussi peut-être maintenant Alex de la Iglesias.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Pourquoi? Parce que, bon, Alex de la Iglesias, qui est un réalisateur basque, il est né à Bilbao, mais il a sans doute une vocation très internationale dans ses films. C'est-à-dire qu'il arrive même à coproduire la plupart de ses films, et il arrive toujours à avoir un coproducteur français. Et cette année, il va venir nous présenter son dernier film, Les sorcières de Sugar Ramurdi, mais interprété par Carmen Mora, enfin la protagoniste est Carmen Mora entre autres. Et je pense que l'événement par rapport à Alex de la Iglesia cette année, et la nouveauté, c'est que le festival a cofinancé la sortie d'un ouvrage sur Alex de la Iglesia, un ouvrage en français, Alex de la Iglesia, la passion des tournées, qu'on a réussi à publier en France, Suisse, Belgique, Québec. Je pense que c'est un grand pas en avant du festival. C'est-à-dire que on a essayé de trouver des collaborations. Il s'agissait d'un ouvrage publié par la Cinémathèque basque en Espagne. Un long entretien à Alex de la Iglesia était au cœur même de la publication. Et on a trouvé que c'était peut-être le moment d'essayer de le traduire, de le sortir en France. On a réussi à signer un accord avec la maison d'édition Rouge Profonde, qui venait de publier un ouvrage sur Guillermo del Toro, donc un réalisateur mexicain qui est très proche d'Alex de la Iglesia. Et finalement, ça a été un long processus, hein, n'est-ce pas? Mais on va présenter l'ouvrage avec Alex de la Iglesia lui-même, et en présence de l'un des auteurs, Jesús Angulo, de la traductrice aussi, puisqu'il s'agit d'une enseignante de l'Université de Nantes, Françoise Garnier, et d'autres institutions espagnoles qui seront présentes. Mais en tout cas, je pense que c'est un grand pas en avant, et je suis particulièrement fier. J'ai dit ça parce que je viens de recevoir ici à Saint-Sébastien, où je me trouve là maintenant, au Pays Basque, un exemplaire de l'ouvrage en français, et c'est un très très beau livre que les Nantais et tous les Français vont pouvoir acheter dans n'importe quelle librairie, etc., en France. Et je pense que voilà que là, il faut être particulièrement fier, hein, puisque je pense qu'on ouvre une possibilité aussi pour d'autres années, essayer d'avoir des publications sur le réalisateur espagnol.
Oui, c'est effectivement, c'est vrai que en plus c'est un personnage important, attachant aussi, et quelque part, malgré ces espèces de gros bonhomme, qui a une filmographie très qui va pratiquement du baroque à des choses un peu plus classiques, même si en regardant après, c'est moins classique Maura Oxford, par exemple, qui se rapprocherait presque plus de Greenaway.
Ouais.
Dans la manière de vouloir faire une enquête.
Ouais.
Il est capable d'aller partout, dans tous les genres. C'est assez,
absolument.
C'est assez étonnant.
Et donc, je pense que vous allez trouver un plaisir inouï si vous mettez à lire l'ouvrage, parce que c'est un grand ouvrage, c'est 400 pages.
Hein, wow.
Et il y a presque 200 pages, 250 pages d'entretien avec Alex de la Iglesia. Et là, il a été extrêmement généreux. Uh-huh. Il s'évide et il nous dit tout, quoi. Il nous dit, je pense qu'on comprend la personne, on comprend les cinéastes. Et c'est vraiment un grand moment de bonheur. Hein, le cinéma peut se lire aussi. Hein.
Et il peut aussi s'écouter, expliquer du moins comment il se monte, puisqu'il y a une masterclass.
Oui, tout à fait.
Ça,
il va venir nous parler de son dernier film, Le sorcier de Sugar Amourdi, mais aussi, profitant de l'entretien, de l'ouvrage, etc., je pense qu'il va parler de sa façon de comprendre le cinéma. Je pense qu'il aime beaucoup le cinéma. Il adore parler des grands réalisateurs, de Hitchcock, de Scorsese, de Aldrich, Hawks, Jacques Tourneur. Il est fou de Buñuel, par exemple, ou Spielberg, mais Truffaut aussi. Il connaît ses films par cœur. Je pense que c'est un réalisateur qui dit souvent que nous avons tous de références parfois très chaotiques, n'est-ce pas, rarement même prestigieuses, mais lui, par contre, je pense qu'il a des références qui sont tout à fait solides, n'est-ce pas, même si tu disais que parfois il est baroque, etc., et je pense qu'en effet, il fuit souvent toute transcendance ou intellectualisme, même si il a une licence en philosophie.
Oui,
et ça,
vrai.
Par exemple, en Crime à Oxford, on avait bien compris que la philosophie était une discipline qui intéressait beaucoup Alex.
Oui, voilà, c'est un personnage intéressant. Qu'est-ce que t'en penses, Serge, autre personnage intéressant, polyglotte? Quand est-ce que vous allez nous faire un livre?
Ah, les livres, je ne sais pas encore. Nous, c'est vrai qu'on a une librairie qui, on a une petite librairie à Nord-sur-Erde qui participe au festival avec une sélection de livres sur le thème de l'année. Le thème que j'ai même pas mentionné tout à l'heure, qui est La vie est belle. Et parce que c'est vrai que c'est une période un peu morose, mais il faut quand même pas oublier que la vie est belle et puis il y a quand même plein de choses qui se font. Et je crois que justement, le cinéma espagnol en témoigne parfaitement, quoi. Malgré justement la période difficile que la péninsule ibérique traverse, il y a quand même encore beaucoup de créations. Et je crois que c'est ça qui, enfin, je crois qu'on doit tous retenir, quoi.
Mm-hmm. Alors, on va voir pas mal des films qui parlent de la crise aussi. Ouais. Les films d'ouverture du festival, par exemple, qui fait partie de la compétition officielle, Le Phénomène, parle exactement de ça, de la crise économique, etc. Mais sans oublier l'humour, je dirais, hein, sans oublier l'humour. Hein. C'est un film qui peut peut-être qui peut nous faire penser à Le Lundi au Soleil. Je ne sais pas si vous vous rappelez.
Oui.
Hein, mais voilà, c'est un film tourné en Galice et qui parle voilà du problème de la construction, etc. Et là, c'est une femme, Lola Dueñas, la protagoniste. Mais un film qui n'oublie, c'était le cas aussi pour Le Lundi au Soleil, qui n'oublie l'humour et une sorte d'espoir, même si parfois un peu loin, mais espoir quand même.
Pour faire le lien entre deux sujets, un sujet qui est présenté à Polyglotte avec les Anglais qui vont peut-être en Inde parce qu'ils ont pour faire leur retraite, comme des Français vont au Maroc, mais en Espagne avec la crise, vous avez vu des gens qui sont venus notamment d'Angleterre, qui sont venus éventuellement acheter des maisons, acheter des hameaux complètement. Et est-ce qu'il y a eu des films qui tournent autour de cette problématique là ou pas?
Pas particulièrement ça. Je pense que on vient de parler de Les Phénomènes, le film de Alfonso Zarauza, le réalisateur galicien. Il y a un autre film de Juan Cavestani, des gens normands, Gente en Sitios, qui aborde le sujet de la crise aussi avec pas mal d'humour. Et ça serait un film qui a plein d'épisodes très différents, une sorte de shortcuts de je ne sais pas si vous connaissez les films américains, mais voilà, un film qui parle de la crise sans doute, mais voilà, je dirais, il faut pas oublier que parfois les Espagnols, même quand il s'agit de situations tragiques, ils ont quand même pas mal d'humour. Et je pense que ça va faire partie de la programmation cette année, surtout en ce qui concerne les films en compétition, parce que on a presque pas abordé les trois compétitions officielles, mais je pense que pour les Nantais qui vont venir voir les films, etc., vraiment, je tiens à les dire parce que c'est vrai. Le festival donne un panorama véritablement réussi de ce qui est le cinéma espagnol d'aujourd'hui. Et en plus, avec les films les plus récents, vraiment. C'est-à-dire que parmi les 7 films en compétition, par exemple, de longs métrages de fiction, il y a des films qui sont toujours à l'affiche ici en Espagne, parfois. Et même des films, par exemple Le Phénomène, qui ne sont pas encore sortis. Je pense que
avant-première européenne,
c'est quelque chose, quoi. Parfois, les Nantais ont la possibilité de regarder des films que les Espagnols ne connaissent pas encore.
Ah ben, dis donc. Alors, il nous reste à peine 6 minutes pour finir de parler de la programmation et peut-être aussi deux hommages, parce que je disais effectivement il y a les fenêtres habituelles, mais donc les gens pourront aller regarder sur le site ou aller rechercher les programmes qui viennent de sortir. Il y a un hommage à Javier Camara, acteur et réalisateur John Franco. Tu peux nous en parler un petit peu, pourquoi ces choix?
Oui, bon, Javier Camara, c'est quelqu'un que vous connaissez sans doute, puisqu'il était l'acteur protagoniste du film d'Almodovar, par exemple, Parle avec elle, ou de La mauvaise éducation aussi. Donc c'est un acteur très, très, très connu, très prestigieux, que cette année, il est protagoniste du film de David Trueba. Vivir es fácil con los ojos cerrados, une phrase qui fait référence à la chanson de Beatles, Living is easy with eyes closed. Et il vient de remporter le Goya au meilleur acteur pour ces films-là. Donc c'est vraiment l'acteur espagnol du moment. Et même si il a une agenda incroyable, parce que il est vraiment très très pris en ce moment, il a accepté de revenir. Il était venu à Nantes en 2004, je pense, mais il a accepté. Il garde un très bon souvenir du festival. Et là, même s'il est peut-être l'acteur le plus recherché en ce moment en Espagne, il viendra à Nantes présenter 4 films. Hier ne finit jamais, le dernier film d'Isabelle Coixet, un film inédit encore en France. Il est facile de vivre les yeux fermés de David Trueba, qui fait partie de la compétition. La mauvaise éducation de 2004, Pedro Almodovar, et Parle avec elle, 2002, Pedro Almodovar encore. Donc voilà, question de découvrir ou redécouvrir le deux films d'Almodovar, et sans doute découvrir le deux derniers films de Camara avec Isabel Coixet et David Trueba.
Je suis pas étonné qu'il puisse revenir, parce que vous faites quand même un travail qui a été reconnu, y compris par vos pairs en Espagne, puisque vous avez eu un prix du Centre Cervantes, c'est ça, je crois, qui oui. monte parce que vous faites un gros travail.
C'était l'Académie du cinéma espagnol.
Voilà, l'Académie du cinéma espagnol. Donc, il y a une reconnaissance qui fait que maintenant les gens et puis la reconnaissance parce que on est bien accueillis. On est bien accueilli aussi.
Et ça va au-delà. Maintenant, Gérard, ça fait 300 que j'habite ici, donc je suis pas tous les jours là-bas à Nantes. Et j'ai, avec la distance, je pense que j'ai peut-être un point de vue plus objectif. Et je peux te dire vraiment que le Festival de cinéma espagnol de Nantes, c'est vraiment le meilleur festival pour comprendre la pluralité, la variété du cinéma espagnol du moment. Vraiment, je pense que, et c'est pas mal de réalisateurs espagnols qui nous en parlent, parfois les Nantais ont réussi, grâce à la programmation du festival, à connaître mieux le cinéma espagnol que les Espagnols. Mmh. Alex de la Iglesia, il y a deux ans, à l'Opéra, il nous disait « Merci de nous aimer plus que nous nous aimons nous-mêmes ». Et parfois c'est vrai à Nantes, et je pense que le festival a réussi à le faire. 27 000 spectateurs quand même l'année dernière. Je pense qu'on n'est pas loin d'être le meilleur festival du cinéma espagnol au monde, en dehors des frontières espagnoles.
Waouh.
Si je fais partie de la...
J'ai pas de recul, je connais pas les autres.
Je pense que la distance me donne là maintenant cette possibilité, et je pense que c'est tout à fait vrai. Je connais d'autres festivals de cinéma espagnol, et il y en a un important à Toulouse, il faut le dire, mais en dehors de ça, c'est vrai qu'en Espagne il y a un festival important aussi à Malaga, mais je ne connais pas d'autres exemples avec une programmation tellement riche, tellement pluriel, avec d'invités de prestige, etc., comme c'est le cas de Nantes.
Mais c'est aussi, je pense, un polyglotte aussi à ton moindre niveau, Serge, mais c'est le fait que vous voyez pas le cinéma pour le cinéma, c'est-à-dire que le cinéma espagnol, il est ancré dans un territoire, et vous montrez à voir aussi l'ensemble du territoire et de la vie de l'Espagne. C'est-à-dire que quand nous, en tant que spectateurs, on va au festival, on va autant pour voir un film que pour s'imprégner un petit peu de ce qui se passe en Espagne, de comprendre un petit peu ce qu'il y a. Donc, je crois que c'est aussi l'équipe, le noyau de l'équipe qui a fait ça, qui fait que voilà.
Bien sûr, mais tout à fait. Et, la présidente du festival, Madame Martinez Vasser, elle est quand même professeure à l'Université de Nantes, professeure de civilisation espagnole. Monsieur Marquez, il est aussi enseignant de civilisation espagnole, etc. Donc je pense que là, mes deux collègues, depuis le début, sont très motivés par une culture espagnole, une civilisation espagnole qu'ils veulent montrer à travers le cinéma. Et véritablement le cinéma le cinéma espagnol est devenu un outil énorme, un outil magnifique pour parler de l'Espagne.
Merci Roseanne Fernandez du Festival du film espagnol. Donc les gens peuvent aller regarder sur le site. On n'a pas le temps de donner le site. Il suffit de regarder sur les moteurs de recherche. On le retrouvera. Merci Roseanne, et puis à bientôt à Nantes.
À très bientôt.
Merci Serge.
Les 3 avril.
Ouais. Merci Serge.
Merci Gérard. Merci Roseanne, et à bientôt aussi.
Et maintenant vous retrouvez le programme Alternante. Bye bye, à la prochaine fois.